Le virus Ebola, qui avait tué plus de 11 000 personnes entre 2013 et 2016 en Afrique de l'Ouest, est réapparu du côté de la République démocratique du Congo, où l'on dénombre 164 cas. Si l'ONU a adopté une résolution appelant à intensifier la lutte contre l'épidémie, l'OMS, elle, a estimé quelques jours avant la 10e épidémie d'Ebola en RDC, estimait que cette épidémie était très préoccupante, mais qu'elle ne constituait pas pour l'instant une urgence de portée internationale. Faut-il craindre une recrudescence du virus Ebola ? Bonjour Anne-Marie Moulin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin, philosophe, spécialisé en médecine tropicale. On a un peu de mal à s'y retrouver avec d'un côté l'ONU qui appelle à intensifier les efforts, de l'autre l'OMS qui parle d'une situation très préoccupante mais qui dit qu'il n'y a pas d'urgence internationale. Essayez de nous faire un peu comprendre, essayez de nous faire voir un peu plus clair dans cette situation et en particulier sur l'ampleur de la recrudescence de la fièvre Ebola qui frappe la RDC aujourd'hui, Anne-Marie Moulin.
On peut comprendre, je pense, la situation comme résultant de deux aspects, un positif, l'autre négatif, qui expliquerait peut-être une sorte de dissonance entre le médical, l'OMS, qui non, il n'y a pas vraiment de situation inquiétante de façon internationale, et puis l'ONU, qui appelle à un renforcement de la riposte contre l'épidémie. Donc le politique et le médical ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, pour une raison simple. Finalement, grâce, si on peut dire, à la Guinée et à l'Afrique de l'Ouest, on a avancé dans la compréhension de l'épidémie, on a surtout avancé dans les moyens qu'on a de s'y opposer. Par exemple, on dispose maintenant d'un vaccin qui a de bonnes chances d'être efficace, et ce vaccin correspond précisément à la souche qui a été identifiée depuis le début de l'épidémie, qui, je vous le rappelle, est la 10e épidémie d'Ebola et qui a commencé le 1er août de cette année.
On va revenir sur cette question de la vaccination, mais dans le cas de la précédente épidémie, on était dans une situation où la maladie avait émergé dans un contexte rural, dans des zones qui finalement étaient assez peu densément peuplées. Dans le cas de la RDC, on est dans une configuration assez différente. D'abord parce qu'on a une densité de population qui est beaucoup plus importante et que par ailleurs, on est dans une situation de conflit. Donc en réalité, les conditions sont réunies pour qu'on ait une diffusion a priori beaucoup plus rapide et forte de l'infection, Anne-Marie Moulin.
Oui, non. Quand l'épidémie a commencé à atteindre dans les capitales, on pouvait considérer que le risque était très grand, puisque les capitales, Conakry et les autres capitales d'Afrique de l'Ouest, sont densément peuplées. Mais c'est surtout le contexte politique qui est désastreux, puisque la région, en particulier la région du Nord Kivu, où se passe l'épidémie, est une région profondément déstabilisée avec des réfugiés qui se sont déplacés ces dernières années, etc., et une certaine déstructuration de la vie quotidienne.
Une déstructuration à tout le moins, parce que effectivement, on est à quelques semaines des élections qui doivent se tenir normalement en décembre prochain, le 23. L'ONU a demandé aux groupes armés qui sévissent dans cette partie du pays, dans le Nord Kivu, où l'on a recensé précisément des cas d'Ebola, l'ONU a demandé de cesser les activités au groupe armé pour permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux populations civiles. On sait que ce sont des élections sous très haute tension. Ça fait quasiment 2 ans qu'elles sont reportées par le régime de Joseph Kabila. Les relations, par ailleurs, entre les autorités congolaises et l'ONU sont extrêmement tendues. On peut espérer que l'aide humanitaire parvienne jusqu'aux zones touchées par l'infection ?
Écoutez, c'est justement le problème. Si on intensifie les fonds, l'Union européenne a fait un effort. Si, comme le souhaite l'ONU, il y a un effort pour répondre à l'épidémie, il faut encore que les fonds dégagés arrivent là où il faut et que les équipements, les vaccins circulent et aussi que, que les équipes puissent intervenir pour, en particulier par exemple pour la vaccination, pour réaliser ce qu'on appelle la vaccination en anneau, c'est-à-dire identifier les cas probables d'Ebola, les diagnostiquer et ensuite vacciner en ceinture, en anneau, autour des cas suspects.
Et on arrive à le faire, ça, justement, parce qu'il y a une grande campagne de vaccination qui a commencé, je crois, en mai dernier. Où est-ce qu'on en est ?
Dans cette région, elle a commencé, à ma connaissance, le 8 août. Le 8 août de cette année, les premiers vaccinés ont été, y compris des personnalités qui n'étaient pas nécessairement menacées, mais des religieux, des ministres qui se sont fait vacciner de façon officielle. En même temps qu'il y avait une campagne d'encouragement de la part des autorités locales et nationales pour encourager les gens, parce qu'il y a eu au départ une grande résistance, en particulier au moment où la rentrée des classes ne s'est pas faite et où les parents ont évité d'envoyer les enfants à l'école pour ne pas risquer qu'ils soient vaccinés.
Oui, résistance au vaccin, mais résistance de façon générale, parce qu'on sait que pour endiguer l'épidémie, il faut porter une attention très particulière à la manière dont on gère les malades, évidemment, qui sont très contagieux, mais aussi les cadavres des personnes décédées d'Ebola. Or, on se souvient que lors de la précédente crise, les communautés avaient assez mal pris qu'on leur impose l'incinération des corps, comme ça avait été décidé, par exemple, au Libéria. Essayez peut-être de nous faire comprendre un peu ces résistances culturelles. Et est-ce qu'on a appris de la crise précédente? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à mieux faire accepter la chose aux populations?
Les anthropologues ont beaucoup travaillé pour expliquer toutes les erreurs qui avaient été faites, en particulier des erreurs de communication. On avait présenté Ebola comme une maladie mortelle à tout coup. Par conséquent, quel était l'intérêt d'aller se faire hospitaliser quand à l'hôpital, on ne serait pas soigné, on serait même assassiné. Bref, les rumeurs les plus folles se répandaient. Et cette fois-ci, la communication semble beaucoup mieux maîtrisée, en ce sens qu'il y a des guéris qui viennent déclarer qu'ils ont été bien traités, qu'ils ont été nourris, que par conséquent, ça a un sens d'aller à l'hôpital. Mais c'est évidemment un message qui, dans un certain nombre de cas, est efficace, mais qui ne l'est pas nécessairement dans un contexte de méfiance extrême avec des bandes armées qui dévastent le pays et qui menacent aussi les paysans.
Merci beaucoup, Anne-Marie Moulin, de nous avoir éclairé aujourd'hui sur cette nouvelle crise Ebola. Je rappelle que vous êtes médecin, philosophe, spécialisé dans la médecine tropicale. Merci à vous.